franceinter.fr.
Bonjour. Produire, s'éclairer, se chauffer grâce à une énergie propre et renouvelable, ce n'est plus seulement une utopie, c'est aussi, en théorie au moins, un objectif imposé par le réchauffement climatique qui menace de bouleverser notre environnement. À l'approche de la conférence internationale sur le climat, COP21, qui s'ouvrira à Paris le 30 novembre, France Inter vous propose mercredi prochain une journée spéciale consacrée à l'environnement. Et Interception vous emmène ce matin sur l'île d'El Hierro, la plus petite île de l'archipel espagnol des Canaries, au large des côtes africaines dans l'océan Atlantique. Épargnée par le tourisme de masse, qui sévit ailleurs dans l'archipel, habitée par environ 11 000 personnes, cette petite île volcanique a attiré l'attention des médias l'été dernier, quand pendant quelques heures, l'intégralité de l'énergie électrique consommée sur place a été fournie par les éoliennes et les turbines hydrauliques dont elle s'est équipée depuis un peu plus d'un an. Cette centrale hydroéolienne, un projet porté par des élus locaux qui a mis des années à voir le jour, permet à El Hierro de s'afficher aujourd'hui comme la première île du monde autosuffisante en énergie, même si elle ne s'est pas encore totalement affranchie de sa traditionnelle centrale au fioul. Une île qui se veut un exemple pour toutes les îles du monde et où se sont rendus Sandy Dauphin et Jean-Pierre Pernel pour Interception. Leur reportage « El Hierro, une île dans le vent » commence par un saut avec Renan, vice-champion d'Espagne de parapente acrobatique et habitant de l'île.
Interception, le magazine de la rédaction.
No jump, no jump, no stop, and never okay. Seat, okay?
Okay.
Okay, one, two, three, go.
Bien, asseyez-vous maintenant.
Sit better.
Asseyez-vous mieux que ça.
Ok, okay.
Bien,
perfect.
C'est parfait.
Ok, nosotros hemos salido de dos hermanas.
Bon, nous avons quitté la montagne des deux sœurs à 1300 mètres d'altitude.
Y nos dirigimos hacia la playa de Los Argos.
Et nous nous dirigeons vers la plage de Los Argos pour atterrir dans une zone de plage.
Bueno, estamos en una isla.
Eh bien, nous sommes
volcánica.
Sur une île totalement volcanique.
Una zona de bosque,
avec une zone de forêt, des zones de plage. Et des zones plus désertiques de lave volcanique dans le sud.
C'est muy lindo. C'est très beau, hein. C'est super. C'est très beau, on arrive vers la mer et en effet, d'ici d'où on est, en altitude, on voit donc cette île volcanique. Bon, une partie de l'île est complètement dans la brume, les volcans sont dans la brume et on voit cette côte escarpée le long de l'Atlantique. Sous nos pieds, des champs, beaucoup de champs, hein, à l'Hierro, c'est très rural et aussi des serres de bananeraies également. Et donc, c'est cette île où soufflent les alizés. Qui vont tourner ces éoliennes. Est-ce que vous pouvez décrire le type de vent à El Hierro? C'est quoi comme vent?
Las zonas de viento son muy, muy suaves.
Ces zones sont soumises à des vents très doux. Habituellement, les gens ne sont pas importunés par le vent. Ils nous aident, au contraire. Ils rafraîchissent l'atmosphère. Sinon, il fait trop chaud ici en été. Et c'est grâce à lui que la vie est très agréable ici.
Pour vous, c'est la suite logique d'utiliser l'énergie du vent.
Oui, parce que c'est une énergie naturelle, totalement gratuite, qui ne produit pas de pollution. Et je crois que le temps est venu d'utiliser cette énergie partout dans le monde.
Sí.
Okay. incorporas the standard.
Yes.
And run a little bit in the ground.
Okay, okay. Voilà, donc là, on va pas tarder à atterrir, tout près de la mer. Et l'atterrissage. L'atterrissage très doux. Mille gracias. Incroyable. Alors là, on a vu sur ces fameuses 5 éoliennes de l'île. On est sur un point de vue panoramique. On surplombe ces éoliennes. Elles sont géantes en fait, elles mesurent combien de hauteur ?
Mesure 60 mètres à peu près. Donc ces 5 éoliennes, c'est la génération classique qu'on a en France, hein, des 2 MW. C'est tout à fait l'éolienne que les Français sont habitués à voir. Il y en a simplement 5, c'est-à-dire pas beaucoup, c'est un tout petit parc parce que l'île est petite. Et donc l'impact sur le... vous pouvez apprécier ou ne pas apprécier l'impact sur le paysage. Voilà, moi je m'appelle Alain Jeudat et je suis chercheur donc à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, qui est le CNRS Outre-mer.
Donc en fait, vous, c'est votre terrain d'étude à l'IRO ?
Oui, avec l'Amérique du Sud.
Depuis des années ?
Depuis 91.
Et cette île a fait le pari de 100% énergie renouvelable. Ça veut dire quoi exactement ? C'est quoi l'objectif ?
L'objectif, c'est que toute l'île va être alimentée en une énergie renouvelable, c'est-à-dire l'hôpital, les infrastructures de l'aéroport, et ici surtout les usines de dessalement et l'éclairage public seront donc en charge complètement des énergies renouvelables, peut-être pas à 100% tout le temps, mais à 100% souvent.
Parce que par le passé, l'île était approvisionnée en énergie par bateau, en fait, à l'ancienne, avec des barils de fuel, c'est ça ?
Tout est apporté, en fait, sur l'île avec bateau.
Parce qu'elle est une usine à fuel. Hein.
Voilà, c'est une centrale thermique à fuel.
Et cette usine, elle fonctionne toujours aujourd'hui ?
Oui, elle fonctionne. Elle est en relais des installations ici. On ne vise pas, si vous voulez, la pureté de l'énergie, des choses comme ça. Ce qu'on vise, c'est avoir un mélange qui soit le plus riche possible et avoir la possibilité, comme on est vraiment une île, ça paraît un pléonasme, mais extrêmement isolé, on vise surtout à ne jamais tomber en panne. Parce que si jamais on tombe en panne, il faut par exemple 72 heures pour redémarrer. Vous allez se retrouver donc sans eau.
L'hyper volcanique et la roche volcanique est très un peu particulière. Ça peut tomber facilement, peut glisser, ça roule.
C'est vrai que c'est aride comme paysage. Hein.
Ici, c'est le côté aride.
Parce que là, en fait, c'est une végétation très ras du sol, très sèche.
Oui, par le vent aussi. Ouais. Le vent.
Et là, on est en train de marcher sur des morceaux de lave, en fait.
Voilà.
Séché.
Alors là, c'est un des rares volcans qu'on a rempli d'eau.
Et l'eau, elle vient d'où, cette eau ?
Elle vient de la mer, mais préalablement, elle a été dessalée. Elle a été montée ici par les éoliennes. Elle est stockée là, et lorsqu'il n'y aura pas de vent, on va l'ouvrir.
C'est-à-dire qu'en fait, on capte l'eau, et quand on en a besoin, on la fait couler voilà. Vers des turbines, c'est ça ?
Voilà, on stocke l'eau, et donc c'est comme une batterie. On va stocker de l'énergie dans le réservoir. Et quand on aura besoin, on ouvrira le réservoir et par une chute d'eau de 700 mètres, on sera, la bombe énergétique.
Voilà. Et ça peut remplacer les éoliennes pendant combien de temps ?
Pendant 48 heures environ.
Et les éoliennes, en fait, comment on gère quand il n'y a pas de vent ? Ça peut arriver des fois qu'il y ait 4 ou 5 jours sans vent ?
Très peu ici, très peu. Ça peut arriver. Donc dans ce cas-là, on va donc vider le réservoir 2 jours. D'énergie et on va se remettre sur la centrale au fuel qu'on n'a pas eu la vision de lui casser puisqu'elle existe.
Donc le but, c'est pas de détruire entièrement cette usine à fuel.
Non, le but, ce n'est pas de détruire le monde, c'est le but, c'est de construire un nouveau monde. C'est pas la même chose.
Un chantier complexe sur une île minuscule et isolée. Il aura fallu 7 ans de travaux et 82 millions d'euros de financement, des fonds de l'État espagnol, des îles Canaries, de l'île d'El Hierro et dans une moindre mesure de l'Europe. La centrale hydroéolienne d'El Hierro fonctionne depuis un an. L'objectif à terme est de se passer des 40 000 barils de pétrole acheminés par bateau chaque année. Le 9 août dernier, c'est l'euphorie dans la salle de contrôle. Devant les caméras, la centrale Corona del Viento parvient à fournir 100% de l'énergie de l'île pendant 2 heures. En temps normal, c'est plutôt 80% au mieux, voire beaucoup moins pendant les 2 mois de l'année où le vent faiblit.
la voiture, soit c'est une grosse voiture, c'est pas une voiture électrique. On me l'a reproché aussi. Mais à l'époque, ça a été fait par Indesa. Indesa, c'est des cadres, ils veulent des grosses voitures. Donc il faut faire avec ce que tu as. Hein. C'est-à-dire que là, on est dans la recherche-action, c'est-à-dire on ne fait pas l'idéal, on fait ce qui est possible de faire avec les éléments qu'on a dans la main.
Alors là, on passe devant le bâtiment où il y a écrit Corona del Viento et le sigle, en fait, c'est un G avec une partie du G, c'est une éolienne.
Voilà.
Donc Corona del Viento, c'est le nom de cette centrale hydroéolienne.
Oui, parce que Corona, c'est l'abri traditionnel des bergers contre le vent.
D'accord, donc c'est en gros, c'est l'abri contre le vent, ça veut dire ça.
Voilà, et donc on utilise le vent ici. Donc le vent est très important sur l'île. Voilà le réservoir inférieur et l'alimentation après turbinage du réservoir supérieur qui va remonter. Et voilà les deux circuits, pompage et turbinage. Voilà.
D'accord. Mmh. Donc ça, ce sont des gens qui travaillent ici. Hein.
Voilà.
Techniciens peut-être. Là, on va visiter, on va visiter les turbines.
On se souviendra de ce vendredi 27 juin comme d'une journée exceptionnelle pour les Canaries.
Des millions de personnes vivent sur des îles à travers le globe.
Nous sommes à l'intérieur de la centrale hydraulique. Un bâtiment flambant neuf qui surplombe la mer. Magnifique.
Je suis le responsable d'exploitation de la centrale hydroéolienne de Corona del Viento. Je m'appelle Juan Gil Moreno. Ici, nous sommes dans la salle de contrôle de la centrale.
Là, par exemple, quand on regarde les écrans, les éoliennes sont en train de produire combien d'électricité et quel pourcentage d'énergie, en fait ?
Aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée. Le recours à l'énergie éolienne est assez bas. Nous recourons plus à l'énergie hydraulique. Et nous couvrons 30 à 40% de la demande totale sur l'île.
Donc là, les éoliennes ne fournissent pas d'électricité en ce moment ?
Non. Elles produisent, mais un minimum. Et nous n'y avons pas recours parce qu'en ce moment, nous entrons dans une période de vent calme qui dure environ 2 mois tous les ans, de septembre à octobre. On appelle ça la période calme et il y a très peu de vent.
Donc en fait, le reste, c'est toujours l'usine à fuel qui alimente. Oui. Et comment ça marche ? C'est un bateau qui apporte des barils de fuel ? Comment ça fonctionne ?
Oui, c'est un bateau. Nous sommes approvisionnés par l'île la plus importante, en l'occurrence Tenerife. Le transport se fait en bateau, d'île en île. Et ici, une fois livré, il est stocké dans un dépôt et alimente la centrale.
Depuis un an qu'existe l'usine, est-ce que vous avez réduit votre consommation de fuel sur l'île ?
Oui, sur une période d'exploitation écoulée de 2 mois, nous avons réduit notre consommation d'environ 300 à 350 tonnes de fioul.
O sea que técnicamente podríamos, aunque el operador de sistema
sí.
No.
Todo tiene confianza y prefiero
ir poco a poco.
Sí.
Bonjour. Donc vous êtes qui en fait? Parce que vous parlez français.
Alors moi je suis un stagiaire qui vient de l'université des Antilles.
D'accord. Vous êtes étudiant ingénieur.
Oui, je suis étudiant ingénieur en deuxième année de formation d'ingénieur à l'université des Antilles.
Votre nom?
Axel Ibéné.
Vous venez de Guadeloupe. C'est oui. Le genre de projet qui pourrait intéresser une
exactement.
Île comme la Guadeloupe.
Oui, exactement.
Mais de quelle façon?
Ben, déjà, par rapport au fait qu'on a beaucoup de relief, le problème est qu'on a un espace naturel protégé dans lequel on ne peut pas installer ce genre d'installation. Et deuxièmement, parce que notre énergie, actuellement, provient à 80% du diesel.
Donc vous vous importez par bateau, c'est un canal ?
Exactement. C'est à peu près pareil que sur l'île de l'Hiro à l'époque, où la majorité de l'énergie électrique qui était produite venait quasiment du fioul lourd.
Sur des barils, sur un bateau, quoi.
Exactement.
Donc c'est ce qui se passe encore en Guadeloupe.
Oui, c'est ce qui passe encore.
D'accord. Et c'est à l'étude, ce genre de projet?
Oui, c'est à l'étude, mais à une dimension réduite. Parce qu'effectivement, avec le parc national, on aurait pu espérer faire quelque chose de plus grand. Ici, sur notre île, ce n'est pas possible.
Parce qu'on ne peut pas installer des éoliennes dans le parc national. Hein,
non, ce n'est pas possible. On en a installé, pas dans le parc national, sur des côtes où, plus exposées au vent. Mais installer des réserves d'eau en altitude aussi élevée qu'ici, ce n'est pas possible. On pourra peut-être le faire sur des hauteurs moins élevées, mais pas aussi élevées qu'ici.
Vous êtes convaincu par le projet ici?
Par le projet ici, oui. Parce qu'il a déjà fait ses preuves au moins pendant les 2 heures du 9 août. On a pu atteindre le 100% de production venant de la centrale Gournay del Viento sans utiliser le diesel.
Oui, merci beaucoup.
Pas de problème.
Giodat, on s'approche d'une usine de dessalement d'eau. C'est l'une des installations très énergivores de l'île. Hein.
Voilà, il y en a 4. Celle-ci est parmi les 2 plus importantes et elle consomme, les 4, environ 60% de l'énergie de l'île.
Donc les installations éoliennes hydrauliques sont vouées à alimenter, à remplacer le fuel par voilà, de l'énergie propre pour alimenter ces installations.
C'est un des gros objectifs de l'île.
Parce que sur une île, forcément, le dessalement de l'eau, c'est une composante importante.
Essentielle. Mais non seulement sur Hierro, mais sur la plupart des îles tropicales et non tropicales.
Alors la particularité, c'est quand même cette usine de dessalement, elle est, pour ainsi dire, cachée, en tout cas, elle est camouflée dans une église. Hein. C'est-à-dire que de l'extérieur, on voit un bâtiment, on dirait une église, ça ressemble à une église. Donc un bâtiment rectangulaire, il y a une grande porte en bois et des fenêtres en ogive au-dessus. Il y a même un clocher avec des carillons, il y a même des cloches. Et quand on s'approche, vous l'entendez, on entend un bruit de moteur. Donc nul doute, ce n'est pas une église, il y a une usine à l'intérieur. Et pourquoi en fait on masque les usines comme ça? C'est
parce que c'est un des grands artistes des Canaries, était César Manrique, qui vient de cette île, qui s'appelle Lanzarote. Ceci est très joli parce que c'est vraiment la copie d'une église. Ce n'est pas un sarcophage construit autour, c'est la copie de l'église, qui est une église petite campagne de Lanzarote. Et depuis le temps de César Manrique, les années 60, les artistes ont beaucoup d'impact sur l'aménagement des îles. Et donc vous verrez d'autres exemples sur l'Hierro, et on essaye toujours de les faire travailler avec le tourisme, le développement, l'industrie.
Là on sent que le vent se lève. Hein. À l'entrée.
Ouais.
Je vais appuyer.
Hola, Don Thomas.
Nous sommes chez Thomas Padron, qui a été président du Cabildo, qui est l'assemblée territoriale de l'île, pendant 28 ans. Et qui est en quelque sorte l'initiateur de ce projet d'éolienne. Monsieur Padron, bonjour.
Buenos días.
Si vous deviez retenir une date, qu'est-ce qui a tout déclenché?
Año 1981.
En 1981,
trabajador de l'empresa eléctrica,
je travaillais pour l'entreprise électrique locale et je présidais le conseil de l'île. Dans les années 80, nous avons commencé à entendre parler des énergies alternatives, mais à l'époque, elles se heurtaient à un scepticisme total aussi bien des autorités des Canaries que de l'État espagnol. C'était un projet qui paraissait utopique, irréalisable.
Est-ce que Madrid vous a soutenu?
Madrid n'a approuvé le projet qu'à partir du moment où l'Union européenne a donné son feu vert.
C'est-à-dire avant, quelle était la position de Madrid?
Antes, la position de Madrid, quelle était? Pues proyecto muy caro.
Eh bien, il pensait que le projet était trop coûteux, que c'était irréalisable, qu'il n'y avait pas de précédent qui leur aurait permis de faire une étude comparative. À cette époque, il voulait installer ici une station de lancement de missiles et de radars militaires. C'était une vision radicalement différente du développement de l'île. Ce n'était pas un projet de développement durable.
Parmi les institutions que vous avez dû convaincre, il a fallu convaincre également Endesa, le fournisseur électrique d'énergie privée.
Endesa ahora lo ha aceptado.
Endesa a accepté le projet. Il n'avait pas d'alternative et ils assurent l'exploitation au quotidien de la centrale.
Il faut dire que l'arrivée des éoliennes sur El Hierro a complètement rebattu les cartes entre les acteurs de l'énergie. Jusqu'à présent, Endesa, le géant espagnol privé, fournissait l'électricité, comme partout dans les îles des Canaries, du pétrole, acheminé par bateau, un marché colossal. Désormais, c'est l'île elle-même qui a la main sur son énergie propre. Le gouvernement local est l'actionnaire majoritaire de la centrale hydroéolienne, 66%. Endesa est un partenaire minoritaire avec 23%.
C'est le satir du bar. C'est un chiringuito. C'est un petit bar typique des Canaries comme il y avait il y a 50 ans et comme il y avait en Espagne avant. Quoi.
Donc le bar, c'est un camping-car.
Camping-car recyclé.
D'accord. Avec quelques tables en plastique, quelques chaises et puis un abri. Alors on imagine que c'est des feuilles de bananier.
Voilà, voilà.
On est juste à côté des serres de bananiers.
Et un peu de tôle ondulée également.
Voilà. Et en fait, en face, c'est la coopérative des bananeraies.
Voilà.
Parce que El Hierro cultive
essentiellement des bananes.
Des bananes.
Voilà. Voilà, bonne table. Solo un latte de leche.
Un latte de leche.
Tu veux un café? Là, il faut un café correct. Cortado. Et un cortado.
Là, il y a un monsieur qui vient de descendre de son pick-up. Et en fait, ce sont des ouvriers de la coopérative qui viennent ici. Elle est juste en face, d'accord.
Que ne pensez du parc?
Que pensez-vous de la centrale Corona del Viento? Ça vous plaît ou pas?
Oui, bien sûr, ça me plaît, c'est parfait. De l'énergie propre, renouvelable, moins de pollution.
Et les autres gens ici, ils acceptent bien cette centrale?
Plus ou moins.
Et pourquoi?
Elle a coûté très cher.
Mais vous avez quelque chose que les autres îles des Canaries n'ont pas?
Les éoliennes. Il y a même des gens qui viennent pour les voir.
Plus de gens qui viennent pour voir.
Ah, Elio, c'est que te pregunto. Es la radio nacional francesa. La radio nationale.
Ici, en quelque sorte, on est sur la rue principale commerciale. Hein.
Voilà, et la rue pavée. Hein. Qui sonne pour que les gens ne se garent pas et pour qu'ils gardent un caractère traditionnel à l'île.
Et là, c'est donc El Cabildo Insular, c'est là où il y a les bureaux de l'administration locale.
Voilà, l'administration insulaire est toute regroupée ici. Et nous sommes reçus bientôt par la présidente, Madame Belém, Allende.
Je m'appelle Belén Allende. Je suis la présidente du conseil d'El Hierro depuis le 19 juin dernier.
L'un de vos slogans pendant la campagne, c'était « Une île aux énergies renouvelables ». C'est assez rare comme slogan pour un parti politique.
Porque necesitábamos diferenciarnos.
Parce que nous voulions nous différencier. Notre développement ne peut pas seulement venir, comme dans le reste des Canaries, du tourisme traditionnel. Nous devons préserver notre environnement, avoir conscience qu'il peut servir à nous développer.
Quel est votre objectif, votre ambition pour l'île aujourd'hui?
Necesitamos configurar un triángulo verde.
Nous voulons mettre en place un triangle vert sur lequel on commençait aussi à travailler d'autres îles comme la Gomorra et la Palma, de façon à être suffisamment attractif pour les touristes du XXIe siècle qui attendent autre chose que simplement du soleil et la plage.
Nous
voulons être compétitifs sur le parapente, la plongée sous-marine, la géologie, également la randonnée, le cyclotourisme, qui offre des possibilités de développement. Nous voulons utiliser nos moyens pour financer nos projets, être compétitifs et faire d'Aliéro une destination touristique différente.
Dans la vie des gens, concrètement, ces éoliennes, cette usine hydroélectrique, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça réduit leur facture d'électricité, par exemple?
La gente no va a percibir un precio más bajo en la factura.
La facture d'électricité des gens ne sera pas réduite pour une raison simple. Le prix de l'électricité est le même pour toute l'Espagne.
Y hay una compensación por el Estado español del sobrecoste.
Le surcoût de la production d'électricité aux Canaries est compensé par l'État espagnol.
Que lo asume el Estado. La venta de esa energía se compensa a través.
La vente de cette énergie nous rapporte de l'argent. Qui vient également de l'État espagnol.
Pour l'État espagnol.
Et l'argent que l'État espagnol vous reverse, c'est combien par an, grosso modo, pour avoir une idée?
L'estimation qu'a fait le ministère de l'Industrie est que,
selon le ministère de l'Industrie, l'énergie vendue jusque-là en 2015 va rapporter 7 millions d'euros à la société Gorona del
Vento.
Nous détenons 66% de cette société, ce qui nous reviendra sera en proportion de cette participation.
Est-ce que d'après vous, le projet est exportable?
Bien sûr. Imaginez, il y a 600 millions de personnes dans le monde qui vivent dans des îles et qui peuvent voir dans notre centrale Gorona del Viento la possibilité de se développer. Pour les îles, ça peut être une solution très intéressante.
Alain Juillet, là on sort du bureau de la présidente du Cabildo, Madame Belén. Donc elle nous dit qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, l'État espagnol lui rachète l'énergie qu'elle produit. Et en gros, ce sont environ 4 à 5 millions d'euros qui tombent dans les caisses locales, ici à El Hierro, qui lui permettent de financer des projets. Est-ce qu'en France, ça pourrait marcher comme ça? Parce que ce n'est pas la même gouvernance.
Il y a différents blocages au niveau de la gouvernance. La nouvelle loi donc, qui est passée le 22 juillet...
La loi de transition énergétique.
Pour la croissance verte. S'est heurté à des résistances et notamment Madame la ministre Ségolène Royal n'a pas pu, malgré deux interventions importantes, imposer que le fournisseur principal d'électricité en France, je ne dirai pas, puisse donner la possibilité d'une autonomie énergétique et financière, par exemple à l'île de Sein. L'île de Sein, elle attend le bon vouloir d'EDF pour... produire de l'énergie propre. Aujourd'hui, l'île de Sein, qui est toute petite, puisque c'est 100 habitants l'hiver ou 150 habitants, elle produit que de l'énergie à partir du fioul. Et donc, il n'y a pas eu de politique sur des dizaines d'années comme ici pour changer de modèle. Alors maintenant, le modèle EDF propose dernièrement de mettre deux éoliennes, mais on n'a pas un calendrier très net. Mais dans tous les cas, EDF ne va pas reverser le bénéfice qu'il va faire sur l'île de Sein au Sénat. L'idée, ce serait en France, pour que ça fonctionne, il faudrait qu'on ait une régie municipale de l'électricité. Comme certaines villes ont repris l'eau, comme à Paris, il y a la régie municipale de l'eau qui maintenant a supplanté les grands groupes privés qui ont changé de nom mais qui s'appelaient avant Veolia et Suez. Parce que comme ça, il y a le reversement de l'argent qui retourne dans les caisses de la municipalité.
Ici, ils ont tout intérêt à se mettre à l'énergie renouvelable parce qu'ils vont générer des revenus pour l'île.
Et donc, les gens verront du bénéfice. Et donc, ils vont pousser.
Nous sommes à Frontera, c'est la deuxième ville d'El Hierro, c'est plutôt un village avec des maisons traditionnelles, des petites constructions cubiques à un étage. Et il y a une curiosité locale ici, c'est le plus petit hôtel du monde. C'est un hôtel qui a figuré plusieurs fois dans le livre des records. Alors ça fait longtemps que ce n'est plus le plus petit hôtel du monde, mais les gens s'arrêtent ici pour venir voir cet hôtel. Et ce petit hôtel est donc que surplombe l'Atlantique. C'est ici que, jusque dans les années 20, on débarquait sur l'île d'El Hierro. Ça fait longtemps que l'embarcadère ne sert plus. pour arriver sur l'île. Maintenant, on arrive par l'autre côté de l'île. Voilà. Bonjour.
Voilà sa chambre, comme c'est son restaurant.
Alors voilà, on est à l'intérieur de l'hôtel. Bonjour monsieur, vous êtes le propriétaire?
Non,
je suis le gérant, moi c'est le gérant.
Del negocio, pero no de...
Et c'est vrai que vos quatre chambres sont équipées de volets exprès pour la tempête?
Oui, on a des volets très résistants pour que la mer ne casse pas les vitres des fenêtres. Les vitres, elles sont fabriquées dans un verre ancien, un verre très résistant.
Est-ce que, monsieur, on peut vous poser quelques questions sur ce que vous pensez en tant qu'habitant de l'île de ce projet d'éolienne?
Je pense que c'est un bon projet pour l'île d'Aliro. Parce que c'est une énergie propre, l'eau n'est pas polluée, l'air que nous respirons non plus, l'environnement est protégé. Cette énergie, c'est un bien pour l'île. Ça permet de développer un tourisme écologique pour des personnes qui veulent respirer cet air pur qu'elles n'ont plus dans les grandes villes.
Si sobre este proyecto se pudiera hacer unas 2000 camas
touristiques. Ce projet d'énergie propre peut déclencher une dynamique touristique qui permettra de travailler, de vendre des produits locaux, des nuits d'hôtel.
En esos hoteles que se podrían hacer para ese turismo.
Si ça favorise le tourisme vert sur l'île del Hierro, eh bien ce sera entièrement positif.
Est-ce que vous faites confiance à ce nouveau mode d'énergie pour vous fournir de l'électricité? Vous avez des pannes?
Pour le moment, ça fonctionne bien. Nous n'avons pas eu de coupure de courant. Je ne sais pas si ça tiendra le coup en cas de tempête, mais enfin, pour le moment, c'est parfait.
On écoute la radio de l'île voisine, qui est plus grande, qui s'appelle La Palma. Mais quand même voisine, ça veut dire, on la voit ici, sur la droite, dans les nuages, ça veut dire des fonds très profonds de 3000 mètres.
Hein. Muy buenos días, de nuevo lunes 7 de septiembre. Hasta ahora, como cada día, repasamos los titulares de la prensa más destacados que tienen que ver con la isla de La Palma.
Voilà, tu as le matin. Et un des points de vue les plus emblématiques de l'île. Et les nuages ont complètement disparu.
Le point de vue le plus emblématique, ce sont quoi? Ces deux rochers?
Oui, ces rochers, ouais, c'est, voilà, dans la mer. Oui, c'est un des points de vue les plus emblématiques.
Et les serres en bas, c'est quoi alors?
C'est les serres essentiellement de bananes et un petit peu aussi, vraiment le vent, l'ananas.
Ce sont des cultures récentes ou...
La banane, je pense, peut me tromper d'une décennie, des années 60. Avant, elle remplace la canne à sucre, qui était moins sensible. Bon.
Parce qu'en fait, l'île, elle vit de quoi? De l'agriculture?
Voilà, elle vit de cette agriculture qu'on voit en ce moment, essentiellement banane, premièrement, deuxième, ananas, ensuite des fruits exotiques comme les papayes, les figues de Barbarie qu'on a mangé ce matin, et aussi, il y a de la viticulture. On s'y ajoute un assez gros secteur d'élevage.
Et c'est pas forcément de l'agriculture bio. Elion n'est pas une vitrine pour toutes les nouvelles...
Non, c'est une agriculture intensive. C'est un petit peu ça le problème de la transition. C'est de passer d'un monde à un autre. Donc ça se fait en général en douceur, et particulièrement sur Elion. Donc il y a de plus en plus d'agriculture biologique sur Elion. Elle est souvent portée par des agriculteurs, peut-être on en rencontrera un, qui sont des néo-ruraux. Mais petit à petit, ça s'essaie. Et ça marche bien. Ils sont très bien reçus dans les marchés, ils vendent sans problème leurs produits à côté des autres. Traditionnellement, ici, les gens, la base, c'est l'élevage de la chèvre, depuis des temps préhistoriques. Et à partir de l'élevage de la chèvre, s'est greffée une petite agriculture, et qui est quand même la plus importante en proportion de toutes les îles des Canaries. Parce que toutes les autres îles des Canaries sont très différentes. Elles consomment énormément d'énergie parce qu'elles reçoivent énormément de touristes. Et tout ce qui est lié au tourisme, c'est-à-dire grands hôtels, Luna Park, parcs de divertissement, piscines, golf. Il n'y a rien de tout ça. Et on reste avec la petite maison cubique des Canaries.
Gracias, Reci.
Hola, buenos días. Enchanté.
Alors, nous sommes chez Sabine qui produit du fromage bio, du fromage de chèvre bio ici sur El Hierro. Bonjour Sabine, hello.
Hello, good morning.
So, Sabine, ça fait, vous êtes allemande, ça fait longtemps que vous êtes installée ici.
Ça
fait 13 ans et demi que j'habite ici maintenant.
Comment avez-vous atterri ici?
Je suis d'abord venue en tant que touriste ici. Avant, c'était une ferme refuge pour les vieux ânes. Ils avaient besoin de volontaires pour des périodes de 6 mois. Alors je suis venue y travailler en pensant ne rester que 6 mois. Et je suis encore là. Depuis, je n'ai quitté l'île qu'une fois pour retourner en Allemagne, vendre toutes mes affaires et revenir vivre ici. J'ai commencé par ouvrir un cabinet de physiothérapie. Et puis, il y a 7 ans et demi, j'ai racheté la ferme, mais sans les ânes. Et maintenant, je vis avec mes chèvres ici. En tout, j'ai 50 chèvres, 2 mâles, 48 femelles et des petits. En ce moment, il y en a une trentaine qui donnent du lait.
Comment vous transformez ça en fromage? How do you transform it into cheese? You have a special kitchen.
I have a cheese room.
J'ai une fromagerie.
Which is now finished.
Elle vient d'être achevée.
How do you say in English? You have to.
Elle est équipée aux normes européennes.
Combien de fromage vous produisez?
At the moment, 4
actuellement, 4 kilos par jour.
I cannot live on it. At the moment,
mais je ne peux pas en vivre pour le moment. Ça paye les dépenses en nourriture pour les chèvres et les frais de vétérinaire. Mais ça reste un hobby. J'espère que plus tard, je pourrai non seulement en vivre, mais aussi faire un peu de bénéfice.
Alors vous avez une démarche proche de la nature, écologique. Comment vous voyez ce projet d'énergie propre sur l'île?
Je suis très contente que cela fonctionne bien depuis 2 mois. Ces dernières années, on s'inquiétait beaucoup. On se demandait si ça allait fonctionner un jour. Beaucoup de gens disaient que ça ne marcherait jamais, que c'était juste une lubie des dirigeants politiques. Maintenant, on voit que cela marche. On peut le vérifier tous les jours sur Internet. On peut même visiter la centrale. Mais il y a eu des inquiétudes, car ce que les gens voudraient avant tout ici, c'est payer moins cher l'électricité. Bon, si j'ai bien compris, on continuera de payer le même prix, car il faut aussi amortir le projet. Donc voilà, certains se demandent pourquoi un si gros projet, si au final on paye l'électricité au même prix, voire plus cher pour l'amortir.
Est-ce que vous-même, vous avez confiance dans l'alimentation électrique de ce projet?
Oui, l'île n'a pas beaucoup d'industrie. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'électricité. C'est assez pour nous tous.
Clara, ven.
Ouvre-moi la tête.
Yayi, ven, meine Yayi. Yayi, ven. Habla por la radio, para la radio. Venga. Yayi.
La noche se ve, la ya se está acercando. La luna en el cielo se asoma bailando.
Là, nous sommes presque au sommet de l'île, hein, à 900 mètres d'altitude. On a perdu quelques degrés. On est dans le brouillard, hein. On voit pas à 100 mètres devant. Et on arrive devant ce grand arbre. Il y a une espèce de réservoir à son pied. Alain Giollet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Donc, nous sommes au pied du Garoué. C'est un des symboles de l'île. Il est sur les côtes des armes de l'île. C'est donc un arbre qui utilise l'eau du brouillard, poussé par des vents, le vent régulier, l'alizé. Et dans chaque nuage, le brouillard est un nuage, il y a des milliards de gouttelettes d'eau.
Donc c'est le brouillard qui est poussé par le vent?
C'est le brouillard qui est poussé par le vent.
Donc en fait, le brouillard se prend dans les feuilles?
Voilà.
Et l'eau ruisselle et elle
petit à petit, les gouttelettes deviennent plus grandes, elles deviennent des gouttes, et elles ruissellent et elles tombent au pied de l'arbre.
C'est ce qu'on appelle un arbre...
Fontaine.
Fontaine. Et du coup, bon, cet arbre-là, il a été aménagé en quelle année en fait ?
Alors, l'arbre qui est actuellement est aménagé à partir de la fin des années 40, 1940, mais sur le modèle, puisqu'il y a beaucoup de dessins, sur le modèle de l'antérieur, qui lui a fonctionné jusqu'en autour de 1610.
Et pourquoi dans les années 40 alors ?
Parce que dans les années 1940, cette région du monde, y compris africaine d'ailleurs, en face du Maroc, a été victime d'une grande sécheresse en l'année 47, par exemple.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il y en a d'autres sur l'île d'arbres fontaines ?
Il y a beaucoup d'autres arbres fontaines, puisque sur ce modèle-là, le service forestier en a aménagé beaucoup d'autres. Et lorsqu'il n'y en a pas, dans les sites très venteux où c'est qu'on a coupé les arbres, eh bien, on en met des clones qui sont en fait de ferraille et de moustiquaires, des filets de moustiques.
Donc finalement, sur El Hierro, l'utilisation du vent comme ressource naturelle, c'est pas nouveau ?
Non, c'est traditionnel, c'est même plus que traditionnel, c'est ancestral. Et donc ça favorise l'acceptation des projets nouveaux.
Comme les éoliennes.
El Hierro, une île dans le vent, c'était un reportage de Sandy Dauphin, prise de son Jean-Pierre Pernel, mixage Alain Joubert. Pour commenter ce reportage, nous sommes avec Joël Labbé, sénateur du Morbihan, sénateur Europe Écologie Les Verts. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que El Hierro peut être effectivement un exemple pour les autres îles dans le monde, notamment les îles bretonnes que vous connaissez bien ?
Oui, ce qu'on appelle chez nous les zones non interconnectées. Qui ne sont pas connectés au réseau national. C'est le cas de cinq îles, on peut les citer, cinq îles, les Glénans, Ouessant, Molène, l'île de Saint et l'île de Chausey. En termes de population, ce sont des îles de moins de 2000 habitants, donc ça représente de petits territoires avec une petite population. Donc c'était des zones d'expérimentation qui étaient intéressantes. Alors je parle au passé pour le moment parce que l'amendement que l'on a souhaité faire passer, qui a été adopté en première lecture avec l'avis favorable de la ministre Ségolène Royal, a ensuite été rejeté en deuxième lecture et ça on le regrette vivement.
C'est un amendement qui était un amendement à la loi de transition énergétique débattue récemment et qui a été rejeté et qui visait à modifier les règles de fourniture d'énergie parce que en France, il faut le préciser, on ne peut pas fournir plus de 30% d'énergie renouvelable, c'est ça ? Et puis il y a un monopole d'EDF sur un certain nombre de choses.
Oui, il y a le monopole d'EDF pour la distribution d'électricité. Et il s'agissait par cet amendement de faire en sorte que les zones non interconnectées au territoire métropolitain et de moins de 2000 clients puissent se libérer de la contrainte du gros opérateur historique qui est EDF pour aller vers des opérateurs privés et éventuellement, même c'était prévu pour l'île de Saint, de la participation citoyenne, enfin de l'appropriation citoyenne de la production d'électricité et puis de l'ensemble de l'organisation sur l'île. Nous trouvions ça, nous les écolos, extrêmement intéressant, d'abord pour les îles elles-mêmes, mais aussi en termes d'expérimentation, parce qu'il y a beaucoup d'endroits au monde qui se retrouvent dans ces situations-là. Et il n'y a pas de solution autre que les générateurs à fioul, ce qui est utilisé sur nos fameuses petites îles. Et l'opérateur historique EDF, comme ce sont de petits marchés, ne s'est pas préoccupé du développement des électricités alternatives sur ces territoires. Et il y avait des candidats privés pour travailler avec les citoyens consommateurs, les élus locaux, pour faire en sorte qu'il y ait cette forme d'autonomie énergétique sur le territoire. Et c'était vraiment une belle possibilité d'expérimentation.
Avec des solutions techniques un peu différentes de celles qu'on a entendues à El Hierro. À El Hierro, ce sont des éoliennes qui fournissent de l'électricité et en même temps alimentent des turbines par une conduite forcée. Ça, c'est pas possible sur les îles bretonnes dont vous nous parlez, où il n'y a pas le relief qu'on a à El Hierro.
Oui, oui, c'est chaque île a ses spécificités. Et on parle maintenant pour les énergies alternatives du bouquet énergétique. Entre le vent, le solaire, l'éventuel hydrolien, on a les sources d'énergie sur nos îles qui sont présentes. Il suffit de les mettre en œuvre avec les technologies que l'on a maintenant dans ces domaines et de faire en sorte que le bouquet énergétique puisse fournir l'électricité nécessaire à la consommation sur l'île.
Techniquement, ça vous paraît possible d'aller jusqu'au 100% énergie renouvelable sur ces îles? Parce que là, on voit à El Hierro que l'usine, la centrale thermique traditionnelle au fioul reste quand même nécessaire.
Elle reste nécessaire de toute façon comme une sécurité. Mais la centrale au fioul, elle est là. Comme sur nos îles, elle est là. Si on part sur le 100% énergie renouvelable, ce qui est possible, la génératrice fioul, elle reste quand même là, mais elle ne consomme pas de fioul, sauf en sécurité, si pour une raison ou pour une autre, il y a dysfonctionnement. Mais l'intérêt, justement, c'est qu'on passe de 100% d'utilisation de fioul à 0%, sauf que ça reste une sécurité en cas de difficulté.
On peut se dire aussi, bon, 11 000 habitants, 100 habitants et quelques, même 150 habitants à l'île de Sein, vraiment c'est à toute petite échelle, mais l'enjeu c'est ensuite de pouvoir le généraliser à l'ensemble des îles dans le monde, à d'autres îles qui ne sont pas connectées.
À d'autres îles, quand on parle de marché français, de savoir-faire français, d'exporter nos savoir-faire, eh bien là c'en est un, s'il est expérimenté, que l'on peut transposer, parce qu'il y a les îles, mais l'idée de faire en sorte que à terme l'ensemble de l'Afrique soit électrifié, ce ne sera pas par quelque chose d'hyper centralisé, ce sera forcément d'une façon décentralisée, et là encore dans les villages de brousse, un peu partout, sur tous les continents, dans les villages de montagne qui ne sont pas encore desservis par l'énergie, eh bien c'est une façon de faire. Alors là on a expérimenté, et là il y a un champ extraordinaire de marché quelque part dans le bon sens du terme, et de marché qui peut aussi être approprié par les populations locales. Je trouve ça intéressant.
Alors, selon vous, le problème, c'est vraiment le EDF qui défend son monopole? Parce qu'à l'île de Sein, par exemple, EDF est partie prenante avec la municipalité maintenant d'essayer de voir s'ils ne peuvent pas implanter des éoliennes. Ils font des efforts quand même.
Alors, je crois que ça a été, les débats ont été déclencheurs de quelque chose chez EDF. Alors ça, c'est tant mieux, mais c'est toujours, enfin les choses sont toujours faites dans l'esprit EDF, la grosse machine, alors qui a ses savoir-faire au niveau, enfin bon, il y a plein à dire, mais bon, EDF existe et on ne va pas faire sans, mais ce qui va se faire par EDF, c'est avec la logique EDF et l'intérêt aussi, moi je parle pas des grosses boîtes style Total qui se mettent sur ces choses-là, mais moi je trouve l'intérêt de justement l'appropriation locale avec des petites sociétés dans lesquelles les citoyens peuvent avoir des parts, les collectivités locales aussi. Là, il y a beaucoup d'avenir là-dedans parce que c'est la réappropriation de sa propre énergie.
Merci Joël Labbé.
Merci également.
Je vous rappelle que mercredi prochain, 23 septembre, sera une journée spéciale environnement sur France Inter à quelques semaines de la conférence internationale sur le climat COP21. Interception est réalisée par Anne Yoro, assistée de Stéphane Combe. Merci à Romain Couturier pour la documentation musicale et Zora Bensmaili pour le site internet. Votre matinée sur France Inter se poursuit avec le journal de 10h. À la semaine prochaine.